Vous êtes sur RTL. Si tout s'était bien passé, à l'heure qu'il est, vous auriez pu entendre quelque chose comme ça.
RTL Foot spécial Euro.
Heureusement, l'équipe de France, par humilité, a préféré laisser la place aux champions du monde de l'info. Ils sont ravis, ils avaient hâte. Voici Marie Mollet, Brice Duvigne, Vincent Parisot, Laurent Tessier, Greg Caradoni et Cyprien Sini dans On défait le monde sur RTL. Épisode 42.
Et je peux vous dire qu'ils tiennent une sacrée forme. Ah, on va prendre la revanche.
Logiquement, cette émission n'aurait pas dû avoir lieu.
Quoi. Bah oui. Avec Brice du génie. Logiquement, si vous voulez dire que logiquement, on aurait dû gagner.
Mais la France était favorite. Pardon.
Là-dessus, il n'y a, hein. a pas de logiquement. À l'arrivée, on a perdu.
D'accord.
Bonjour, bonsoir Brice du génie.
Bonsoir.
Bonsoir Laurent Tessier. Et si vous voulez signer, on ne va pas encore se dire bonsoir, mais on va vous demander le sommaire.
Vous sentez pas ? Mais si ! Ça sent les vacances.
Ah oui, c'est ça.
Et oui, et avec les embouteillages de l'été.
Je n'ai pas osé.
Et si. Et ce soir, vous comprendrez pourquoi ils sont incontournables et indissociables des grandes vacances. La solitude du tireur de pénaux.
Ah.
Oui, vous avez compris, on s'est toujours pas remis de la défaite des Bleus. Mmh. On essaiera de se glisser dans la tête de Kylian Mbappé avec une psychologue. Le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, vous récompensez une œuvre collective du grand art.
Oui, une pancarte, un message crypté, un peloton à terre et un pataquès peut-être un peu disproportionné.
Le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne vous parle plus avec cette semaine, Brice. Un retour où tout a commencé. Wuhan en Chine, ça vous parle ?
Oui, dans le berceau du Covid-19, la pandémie n'est plus qu'un lointain souvenir, mais la Chine a d'autres problèmes.
D'ici 20h, trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, le peut-être futur Thomas Pesquet. Mmh. Et bien entendu, un fabuleux séjour à gagner un indice. La Bretagne, ça vous gagne. On défait le monde.
C'est pas un slogan, ça.
Non. On défait le monde, saison 2. Avant-dernier épisode, les amis.
Allez hop, on y va. En route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde sur RTL.
Oui.
Mais d'abord, on commence avec le surf de la semaine, Cyprien.
Et cette semaine, on commence avec une pensée émue pour Olivier Faure, vous savez, le patron du PS. Mmh. Pas peu fier d'annoncer pour la présidentielle le 17 avril dernier. C'est pas vieux le 17 avril dernier, 2 mois et demi.
Pour les écologistes, pour les socialistes, pour les radicaux, pour Place Publique, pour Nouvelle Donne, pour Génération, il y aura un candidat et un projet commun. Nous voulons ressusciter un espoir. Oui, quelque chose ce matin a changé.
Oui, cette fois c'est sûr, un candidat commun à la gauche et au vert. Et donc, mercredi dernier, Yannick Jadot annonce...
Je suis candidat à l'élection présidentielle.
Ah ben voilà, voilà, on tient le candidat unique du coup, hein, c'est fait. Yannick Jadot. Ah, on me signale dans l'oreillette que le maire de Grenoble, l'écolo Éric Piolle, a lui aussi une annonce à faire.
Je suis candidat.
Mais, comprends pas, c'était pas Jadot le candidat. Ah, une nouvelle info qui nous parvient.
Plusieurs centaines d'élus locaux vont signer une tribune en soutien de cette candidature Hidalgo à la présidentielle.
Ouais, ok, donc en fait ça...
Il y aura un candidat et un projet commun. Oui, quelque chose ce matin a changé.
Bah non, pas trop en fait, il n'y a rien qui a changé. Et là vous vous dites, ouais, il est mauvaise langue, tout ça va s'arranger dans la joie et la bonne humeur avec une bonne vieille primaire des familles. Et bah au PS c'est mal parti. Hein.
Non, nous ne sommes pas dans une idée de primaire et donc nous sommes avec Anne Hidalgo dans une démarche de construction qui ne passe pas par des primaires.
Donc en gros, la dernière chance pour la gauche unie, c'est...
Au secours, Obi-Wan Kenobi.
Oui, à part Obi-Wan Kenobi, on ne voit pas trop d'autres solutions. Sinon, en France, sur le front du Covid, bon, ça va à peu près. Bon, y a peut-être cette inquiétude de Gabriel Attal, quand même, le porte-parole du gouvernement.
Oui, moi je le dis, je crains une forme de fracture entre ceux qui auront été vaccinés et ceux qui n'auront pas voulu se faire vacciner, c'est certain.
Non, une fracture, non, les gens sont bienveillants, pédagogues. Non, ça va bien se passer, comme avec cet éditorialiste de BFM.
Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit, et on vous vaccinera de force.
Nous-mêmes.
Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Allez. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut.
Ouais,
il est éditorialiste, bon. Il est mesuré en tout cas.
C'est vrai que ça pourrait se tendre un petit peu, quoi. Hein. Un Gabriel Attal très très en forme cette semaine sur l'art de la punchline. Il fait ça en 2 temps maintenant. Écoutez, il parle de Xavier Bertrand et il démarre comme ça. Attention.
Il y a encore une fois une logique à géométrie variable et des convictions qui me semblent très malléables et très plastiques.
Xavier Bertrand qui lui semble très malléable et très plastique. Vous la voyez venir la blague ? Eh ben elle arrive.
Il a des positions qui sont tout à fait plastiques. Donc oui, j'ai dit, c'est pas Xavier le réformateur, c'est plastique Bertrand. Voilà.
Oh non.
Il l'avait préparé.
Plastique Plastique Bertrand, Xavier Bertrand, très bon. En revanche,
pas ça très nouveau monde, Plastique Bertrand.
Ça plane pas trop. Non, pour le... Chacun ses références, attendez. Ça plane pas trop pour le Rassemblement National, hein. Mais alors il y en a. Ça les préoccupe pas tant que ça, à l'image de Jean Messia. Je sais pas si vous le connaissez, c'est l'ancien cadre du parti qui passe son temps sur CNews. On est au lendemain de la débâcle, lundi dernier, chez Pascal Pro sur CNews. Et là, moment un peu surréaliste.
Bonjour. Ça marche pas du tout le Rassemblement National.
Bah non, mais c'est pas ça. Moi qui me préoccupe, c'est le verrouillage de mon compte Twitter pendant 7 jours. Hein. Donc je voudrais vous en informer parce que c'est un verrouillage arbitraire.
Je suis d'accord, mais vous parlerez de votre cas.
Non, mais je.
Franchement, l'essentiel, c'est les régionales. Pardonnez-moi, mais on se fiche que votre compte Twitter soit verrouillé pour le moment, en tout cas.
Le gars complètement auto-centré. Et pour savoir donc s'il va récupérer son compte Twitter, bah vivement la semaine prochaine.
Hein. Ah bah ça, on a hâte. Évidemment, vous nous donnerez
suspense.
L'info. Vous savez ce qui se passe à Suisse-Espagne ?
Non, il y a France-Suisse ce soir.
Non, il n'y a pas France-Suisse. C'est Suisse-Espagne et ça fait un partout, Baptiste Durieux.
Tout à fait, Vincent. L'égalisation à l'instant de Sherdan Shaqiri. C'est le capitaine, le leader technique de cette équipe. L'Espagne qui avait la possession mais qui était dominée en termes d'occasion. C'est une réduction du score qui est totalement logique. Un partout donc entre la Suisse fabuleuse et l'Espagne.
Et vous le savez, vous ne loupez rien.
Ils sont forts les Suisses, hein, c'est ce qu'on disait.
Ah ouais. On les adore.
Bravo les Suisses.
RTL Soir, on défait le monde.
Avec la grosse info de la semaine, alors elle concerne à peu près tout le monde, Laurent Tessier, puisque vous avez décidé de nous parler des embouteillages.
Oui, s'ouvre le grand cortège estival des chassés croisés, comme si le chantait si bien Dorothée.
Les gens d'affluence sur les routes de France.
Oh non.
C'est
différent.
Non, mais tous les ans, on sait que ça va arriver et on y va quand même. Du coup, Laurent, vous avez carrément enquêté sur le concept du bouchon.
Bah oui, parce que vous êtes peut-être sur la route en train de partir en vacances et l'ambiance autour de vous ne ressemble pas au chant des oiseaux, mais plutôt.
Mais oui, on souhaite bon courage.
Bah voilà, comme chaque année, vous prenez la tête avec monsieur, madame. Je t'avais dit de partir plus tôt, je t'attends à chaque fois, tes affaires ne sont pas prêtes. Raccroche avec ta mère.
Ah, toi aussi, ça fait
ça m'arrive, voilà. Quoi qu'il arrive, vous êtes bloqué, mais sachez-le, il y a un mois plus compliqué que l'autre. Vincent Martinier est le directeur de la communication de TomTom.
C'est souvent le mois de juillet qui est le plus chargé au niveau des départs en vacances. On a des temps de parcours plus difficiles, en tous les cas pour Paris. Quitter Paris en juillet, un vendredi ou un samedi matin, c'est plus pénible le mois de juillet qu'au mois d'août.
Donc, amis juilletistes, soyez patients, ça va être la galère, vous êtes prévenus.
Oui, mais alors, dites-nous, pourquoi à chaque fois qu'on part en vacances, à chaque fois, on a des bouchons ?
Je vais vous le dire, Vincent. Presque 7 Français sur 10 ont l'intention de partir en vacances cet été, en juillet et en août, un niveau supérieur à celui de l'an dernier. Et les raisons, elles sont multiples. Écoutez le sociologue Gérard Mermet.
C'est d'une part dans la tradition, ça a commencé quasiment en 1936 avec les congés payés, donc c'est assez ancien maintenant. Puis aussi parce que les entreprises nous y incitent le plus souvent, en tous les cas, de fractionner les congés en prenant une grande partie l'été et une petite partie l'hiver.
Les Français partent avec leur voiture, c'est plus pratique, moins coûteux que le train quand on est une famille. On peut amener des équipements jugés indispensables, hein, les vélos, la planche de surf de Cyprien. La dimension familiale est aussi importante. On dépose les enfants chez les grands-parents, ils nous ramènent la petite famille avant de partir à notre tour. Et puis la France accueille aussi un bon nombre de touristes étrangers. Cette place est importante, le sociologue Gérard Mermet nous le rappelle.
La France, c'est l'empire du milieu en Europe et donc il y a beaucoup de touristes qui viennent notamment des pays du Nord qui traversent la France ou qui séjournent. La France est la première en nombre de touristes qui viennent sur son sol.
Des touristes étrangers qui traversent aussi la France pour se rendre en Espagne, ça rajoute du trafic. Et puis, c'est vrai qu'on a tous le don de partir en même temps, au même moment.
C'est les autres qui partent en même temps.
On se dit comme ça, le même jour. Mais après, ce n'est pas forcément de notre faute. Pierre Chasseret, c'est le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
Les réservations d'hôtels, les réservations de vacances, c'est souvent du samedi au samedi. Et donc, on cherche tous à arriver sur notre lieu de réservation le jour même. L'astuce, c'est sans doute de décaler son voyage. Alors, on va pas dire aux Français de perdre une journée de vacances, mais peut-être d'en gagner une en partant une journée avant, passer une nuit à l'hôtel, couper le trajet, intégrer le trajet dans les vacances qui permettra de ne pas partir en même temps que les autres.
Ouais, et donc n'être plus dans ce flux de véhicules qui engorge les péages. Et c'est à ce niveau qu'on trouve d'ailleurs le plus de bouchons. Après, vous pouvez utiliser les applications connectées, hein, pour les éviter.
Donc vous êtes devenu le roi du bouchon. Oui. Vous avez bien quelques petits conseils à nous donner pour le week-end à éviter, tout ça.
Oui, si on fait référence à ce qui s'est passé l'an dernier, méfiez-vous dans les jours à venir. Écoutez Vincent Martinier, le directeur de la communication de TomTom.
Alors si on fait l'analogie avec 2020, le week-end le plus chargé, c'était le deuxième week-end des vacances qui correspondait au week-end du 10 au 12 juillet, avec le samedi 11 juillet, la journée était la plus difficile pour partir et pour quitter Paris. Si on fait la même analogie pour 2021, ça correspondrait au week-end qui commencera le vendredi 9 juillet. Et là, il faudra probablement s'attendre à beaucoup de départs en vacances ce jour-là.
Et je sens que vous avez...
C'est vendredi prochain.
Vendredi prochain, dans une semaine.
Et je sens que vous avez... la dernière.
En plus, vous avez envie d'avoir d'autres conseils, décaler son voyage, on l'a dit. D'autant plus qu'environ 85% des Français partent dans l'Hexagone cette année, donc on a tout intérêt à changer de stratégie et emprunter ce que Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes appelle les itinéraires bis-bis.
Découvrir les petites routes de France, s'arrêter dans une bonne petite auberge, profiter de l'économie qu'on a fait sur les péages pour peut-être découvrir un super petit resto. C'est ça finalement l'esprit des vacances, un genre de tour de France à la française pour les automobilistes, une petite étape qu'on pourrait faire, pas en vélo mais en voiture.
Une manière peut-être d'éviter la scène aussi avec les enfants quand on rentre dans les bouchons, vous connaissez la phrase « quand est-ce qu'on arrive au bout de 5 minutes ?» Et finalement, ce que l'on doit avoir à l'esprit.
Le trajet des vacances, c'est déjà vacances.
Mais bon courage quand même si vous êtes dans les bouchons.
Ouais. Bon courage à tous en tout cas, soyez prudents, soyez patients. On marque une courte pause dans un instant au Brio Dîner.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Alors comme ça, Brice Dugénie, vous voulez nous faire briller au dîner avec le congé paternité.
Absolument, depuis hier en France, le congé paternité, vous le savez, est passé à 28 jours et non plus à 14. Je voulais simplement vous poser la question, savez-vous en Europe, quel est le pays où le congé paternité est le plus long?
La Suisse.
Non, la Suisse, ils l'ont que depuis quelques mois.
Un pays du Nord, non?
Non, et c'est pas un pays du Nord, c'est l'Espagne. Oh. Parce que depuis le début de l'année en Espagne, ce ne sont pas 28, ni 50, ni 100, mais 112 jours de congé paternité.
Ça fait quoi, 4 mois?
16 semaines, absolument, pour être à égalité parfaite avec le congé maternité.
C'est formidable, bravo.
Ah oui, mais là, vous pouvez briller.
Absolument, c'est l'objectif.
Vous pouvez briller, vous parlez du match de ce soir, Suisse-Espagne, et en plus vous dites, et au passage,
vous savez, bien placé.
Et bien justement, on va parler foot là pour allumer la lumière.
Allume la lumière.
Quand un expert nous éclaire sur l'actualité, c'est le principe. Et ce soir, donc, Cyprien, on va parler de psychologie des sportifs.
Oui, car on ne s'est toujours pas remis de ce péno raté de Mbappé, de cette élimination. Et surtout, on s'est dit que ça devait vraiment être l'enfer de devoir marquer dans une séance de tir au but.
On a donc essayé de savoir ce qu'il avait bien pu se passer dans la tête de Mbappé au moment d'aller tirer ce pénalty. Est-ce qu'il y a une clé pour éviter de le rater? Et pourquoi dans le foot, la préparation mentale est encore assez taboue?
Et pour répondre à tout ça, on a contacté la psy des champions, Meriem Salmi. Elle s'occupe notamment de Teddy Riner. Et alors, vous allez l'entendre, dans la tête d'Mbappé, avant le péno, a priori, ça devait pas être si serein que ça.
Moi, j'ai regardé le match. Alors, évidemment, je suis pas dans la tête de Mbappé, mais j'ai pas vu quelqu'un en excès de confiance. Quand je l'ai vu s'approcher du tir au but, j'ai vu quelqu'un concentré, préoccupé, mais pas en excès de confiance. Ce genre d'exercice qu'il réussit probablement à pratiquement 100% à l'entraînement, devant l'enjeu que ça représente, il a dû être parasité par un certain nombre de pensées, notamment le besoin et le désir de bien faire pour son équipe, pour ne pas décevoir et pour ne pas mettre en péril ce match. C'est quelqu'un qui techniquement est au point, qui est hors norme, qui a des qualités exceptionnelles, mais la tête, là, elle a une dimension extrêmement importante. Un champion sait qu'il peut perdre. C'est une des caractéristiques de sa progression. Je sais qu'on m'a dit certaines fois que j'avais un discours de loser, mais oui, un champion sait qu'il peut perdre. Oui.
Voilà, un champion sait qu'il peut perdre. Et donc, pour lutter contre cette peur de perdre ou de gagner, d'ailleurs, qui parasite le champion, comme on vient de l'entendre, c'est quoi, Cyprien, la clé?
Eh bien, je vais vous décevoir, Vincent. Enfin, c'est notre psychologue qui va vous décevoir, surtout.
Le problème, je vais vous choquer, mais je suis pas serrurier. Donc, c'est pas une clé, en fait. C'est un long travail qui se prépare bien en amont, qui va vous permettre d'être solide. On travaille sur une approche globale où tout va entrer en compte. Vous savez, certains athlètes peuvent rencontrer aussi des soucis dans leur vie privée, avec des tensions dans l'équipe. Donc, parfois, un tir au but peut être parasité par ce genre de choses. Donc, l'athlète n'arrive pas dans les meilleures conditions. Et même si, effectivement, on va dire, quel est le rapport entre un tir au but et m'interroger sur ce qui se passe dans ma vie privée, parce que tout intervient, le moindre grain de sable peut perturber l'équilibre d'un athlète. On est dans l'école de l'excellence, donc dans l'école du détail. Et le détail, c'est ce qu'il y a de plus complexe. C'est de la haute couture.
Ouais, on comprend donc que l'aspect psychologique est déterminant à ce niveau-là, mais pourtant on ne parle pas trop de préparation mentale dans le foot.
Oui, c'est même presque tabou en fait. Il y a un début d'explication à ça, écoutez.
Il y a des sports particulièrement réticents à cette question de la psychologie. Et effectivement, ce sont des milieux qui sont extrêmement exigeants, mais pas seulement physiquement. Je pense que le foot est très regardé et très jugés. Les réseaux sociaux sont absolument abominables. Ils sont scrutés sous toutes les coutures. On a un regard sur le football qui est très critique. Hein. On s'expose beaucoup plus. Je n'ai pas dit que dans les autres sports non plus, mais les footballeurs sont regardés par des millions de personnes sur la planète. Hein. Alors, ils ont aussi des avantages que les sports confidentiels n'ont pas. Mais l'inconvénient, c'est qu'on est critiqué. Donc, c'est pas simple de se mettre à découvert. Hein.
Voilà, la pression au moment du tir du pénalty. Eh bien, on a tout compris, c'était bien allumer la lumière ce soir.
Quel enthousiasme.
Bon, cela dit, il y a encore péno, oui, enfin, va y avoir péno, hein, péno pour briller au dîner dans un instant. Il est 19h36.
À suivre dans On défait le monde.
Votre deuxième info pour briller au dîner, le loser de la semaine et le jeu pour partir en Bretagne. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Avec Laurent Tessier. Question Laurent, qui a eu cette idée folle d'un jour inventer, alors non pas les pénaltys d'ailleurs, mais les tirs au but.
Ben oui, qui est le responsable de notre élimination en huitième de finale de l'Euro contre la Suisse? Qui, mesdames, messieurs? Eh bien, on doit cette invention à un Nord-Irlandais, William McCroom. Il faut remonter à la fin du 19e siècle. L'homme est gardien dans un club irlandais et effrayé par la violence qui a lieu parfois dans la surface de réparation et pour limiter la brutalité des défenseurs, eh bien, il a l'idée de sanctionner les fautes par un coup de pied arrêté. Il persuade la fédération irlandaise de soumettre son invention à l'International Board, garant des règles du foot, le pénalty est introduit en 1891.
Eh bien, merci, monsieur McCroom.
Par un gardien.
RTL. Le loser de la semaine.
Le loser, le grand perdant de la semaine. Et cette semaine, Marie, alors vous avez été sympa, vous avez épargné les bleus. Hein. En revanche, vous nous offrez le feuilleton tragicomique de la semaine sur le Tour de France.
Hein. Eh oui, car samedi, première étape du Tour entre Brest et Landerneau, 45 km de l'arrivée, 16h11.
Avec un incognito, là, dans les dernières. Là, c'est un carambolage.
Ah, ça se tamponne propre et net hein, quand c'est comme ça.
Est-ce qu'on n'a pas eu un spectateur imprudent aussi, peut-être hein,
Non.
Ah, bah si, si. Regarde le ralenti.
J'ai l'impression.
Non, c'est un spectateur avec un drapeau.
Avec une pancarte, là. Regardez, voilà la pancarte. Hop, et non, madame, ou monsieur, je ne sais pas.
Alors, c'est madame, hein, une spectatrice qui s'est rapprochée de la route pour montrer sa pancarte aux caméras et qui a involontairement heurté un coureur. Énorme carton. Écoutez la casse au milieu du peloton.
Son vélo, son cadre à l'arrière, son wishbone plus précisément, est complètement détruit. La roue arrière qui pend, avec le dérailleur qui pend.
La fourche arrière complètement détruite.
Ah, le vélo, il a explosé.
Ouais.
Alors, il y a des dégâts matériels, il y a des blessés légers, un abandon, celui de l'Allemand Yasha Sutterlin. Mais globalement, les coureurs passent assez vite à autre chose, hein, estimant que cela fait partie du jeu, que ça fait partie du tour avec un public. Sauf que l'affaire n'en reste pas là. L'organisation du Tour de France porte plainte, pataquès médiatique autour de celle qu'on appelle désormais la femme à la pancarte.
La femme à la pancarte et...
La pancarte de cette spectatrice.
De cette spectatrice.
C'est navrant.
Son acte était d'une idiotie sans nom.
Une spectatrice irresponsable.
Et c'était sans compter la police qui prend l'affaire très au sérieux, trop peut-être. Elle dépêche ses plus fins limiers, 4 jours de traque, avis de recherche, vidéosurveillance. Qui mettra la main sur la mystérieuse femme à la pancarte? Peu à peu se dessine un portrait robot inquiétant.
En ciré jaune, avec un jean bleu, un pull rouge et blanc rayé, on a encore peu d'éléments. Qu'elle est née en 90, qu'elle a donc 32 ans et qu'elle vit dans le Nord Finistère.
Ouh là là, oui, ciré jaune, pull rayé, ça sent la pègre, hein, tout ça. La pauvre jeune femme a fini par se rendre d'elle-même à la gendarmerie de Landerneau avant d'être placée en garde à vue, casse-prison, elle y était encore hier. Interrogatoire dans la foulée et la police a fini par décrypter le mystérieux message kabbalistique inscrit sur la pancarte « Allez, Hopi, Omi ». Écoutez le procureur de Brest.
L'inscription « Allez, Hopi, Omi » signifierait « Allez, papi, mamie, Hopi et Omi » étant, semble-t-il, des mots usuels en langue allemande pour désigner papi et mamie.
Ah ouais. Wow. Alors là, c'est du très gros poisson, le grand banditisme n'a qu'à bien se tenir. Alors, entre-temps, l'organisation du Tour de France a retiré sa plainte, estimant que l'affaire prenait des proportions démesurées. Et je voulais vous laisser avec les paroles d'un sage, celles du manager de la Groupama FDJ, Marc Madio. Personnellement, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'essentiel.
Le mot arrêter, il faut peut-être arrêter. Je pense qu'il faut la laisser
à laisser réfléchir. Faudrait pas penser que c'est juste un problème de pancarte. Pour moi, les chutes, oui, la pancarte, ok, d'accord, c'est une chute, mais c'est pas toutes les chutes. Le mot arrêter, faut peut-être arrêter.
Bon, vous avez compris, hein, c'est pas qu'une histoire de pancarte. La jeune femme, elle devrait s'en sortir avec une amende de 1500 euros au maximum.
Et pour être tout à fait complet, elle sera jugée le 14 octobre prochain à Brest.
Bon, bah très bien, c'est l'heure du jeu peut-être, non?
Ah bah oui! Évidemment, et pour savoir ce qu'elle a gagné... La fameuse question dont est fait le monde. Mais d'abord, monsieur Cadeau, qu'est-ce qu'on gagne?
Un séjour pour deux personnes en Bretagne pour l'exposition Unki Bilal. Vous savez, Unki Bilal, il fait des peintures, des films, des écrits, des dessins, de la bande dessinée.
La bande dessinée,
la BD,
bien sûr.
Brice, ultra fan, hein, je précise.
Oui, j'aime bien.
Vous allez... vous ne pouvez pas jouer, Brice. Malheureusement, vous ne pouvez pas jouer.
Absolument, ouais.
L'exposition se déroule jusqu'au 29 août au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau. On vous offre une nuit au Clos du Pornic. Oh. Deux entrées pour l'exposition Unki Bilal avec une visite commentée, s'il vous plaît. On vous offre aussi le catalogue de l'exposition et on vous offre le transport aller-retour de la gare la plus proche du gagnant jusqu'à Landerneau, oui, messieurs.
Et deux crêpes.
Et mesdames.
Voyage, hôtel,
bien sûr,
expo, formidable.
Surtout, mesdames.
Ouais, bon, j'en prie, se calme. Donc, pour gagner ce magnifique voyage en Bretagne avec Expo. Alors, on vous a parlé embouteillage en début d'émission. Comment s'appelle le petit personnage sympathique qui vous donne l'état des routes avant de partir? Est-ce que c'est A, bison futé, B, tortue géniale, ou C, petit tigre espiègle? Donc, c'est mignon, ça. Bison futé, tortue géniale, ou petit tigre espiègle qui est mignon? 32-10. On passera un coup de fil au vainqueur en toute fin d'émission.
On défait le monde sur RTL.
Oui, mais c'est le billet retour, là, maintenant. Vous savez, quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle moins, c'est vrai aujourd'hui.
Et ce soir, Brice, on a choisi de revenir là où tout a commencé. C'était il y a un an et demi, mais on a l'impression que c'était il y a une éternité, souvenez-vous.
Cette maladie qui n'a pas encore de nom commence à se répandre à Wuhan.
Les premiers cas ont été décelés dans la ville de Wuhan, en Chine.
Les policiers interdisent l'accès à ce marché de Wuhan, à l'est de la Chine. C'est ici qu'un virus animal, à l'origine de cas de pneumonie, a été détecté.
Wuhan, en Chine, épicentre de l'épidémie il y a un an et demi. Bon alors chez nous, depuis, on cumule les vagues. Hein. Mais Brice, comment ça se passe aujourd'hui là-bas?
Eh bien quoi de mieux que de poser directement la question à ceux qui y vivent. J'ai joint Philippe Usan, cela fait 10 ans qu'il vit en Chine. Et depuis 4 ans à Wuhan, il a vécu le confinement ultra strict l'année dernière. Et voilà à quoi ressemble sa vie aujourd'hui dans le berceau du coronavirus.
Tout est normal. Il n'y a aucune dose de rien du tout. Et la vie a repris normalement depuis pas mal de temps quand même. Aujourd'hui, le Covid, ça fait plus d'un an que c'est terminé. Hein. Tout le monde continue à porter le masque. C'est obligatoire dans les lieux publics. Hein. Par contre, dans la rue, non, c'est pas obligatoire. Mais les gens le portent. Bon, et le QR code qui est demandé dans tous les lieux publics. Mais sinon, non, la vie est tout à fait normale.
Retour donc à une vie presque normale.
Une vie presque normale, tellement normale que la Chine, désormais sa seule obsession, c'est de devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis dans les années à venir.
Quoi. Absolument. Cette semaine, dans son discours sur la place Tiananmen, à l'occasion, vous savez, des 100 ans du Parti communiste chinois, Xi Jinping en a parlé. Vous l'entendez, il insiste, et vous ne le comprenez pas, il insiste justement sur les ambitions de puissance chinoise, loin de se soucier désormais de la pandémie.
Sauf Brice, que c'est pas si simple.
Absolument, parce que la Chine aussi est confrontée à des difficultés internes qui pourraient à terme faire vaciller son économie. Vous avez entendu parler il y a quelques semaines de la volonté du gouvernement chinois d'autoriser, d'inciter les couples à avoir 3 enfants. Ouais. Eh bien, c'est pas pour rien, c'est que la Chine est confrontée au vieillissement de sa population. Les Chinois vivent de plus en plus vieux. L'espérance de vie a bondi de 10 ans depuis les années 80, c'est énorme. Et dans le même temps, le taux de natalité est resté très bas, ce qui est un signe de manque d'optimisme en l'avenir. La main-d'œuvre va donc finir par manquer dans les années à venir, l'économie risque d'en pâtir. Autre problème, en 2035, le paiement des retraites, qui se fait par répartition en Chine comme en France, ne sera plus possible, il n'y aura plus assez d'actifs. On estime qu'en 2050, un tiers de la population chinoise aura plus de 60 ans. Ça veut dire qu'il faudra verser une pension de retraite à 500 millions de personnes dans l'organisation actuelle, c'est impossible. Ouais. Alors le gouvernement chinois réfléchit, comme en France, à repousser l'âge de départ à la retraite face à ce risque de ralentissement de l'économie. La Chine pourrait ne plus être cet Eldorado industriel qui fait aujourd'hui sa puissance économique.
En fait, en vous écoutant, on a l'impression que la Chine a les mêmes problèmes que nous. Quoi.
Absolument. D'ailleurs qu'en parallèle, des mouvements apparaissent sur les réseaux sociaux et prônent un autre mode de vie. Cette tendance, elle porte un nom, ça s'appelle le Tangping, traduction apologie de la paresse ou de l'oisiveté,
Trop
si
bien.
Vous voulez.
J'adore.
Absolument. Et les messages sont sont assez nombreux et deviennent même viraux. Deux jeunes Chinois font part de leur refus de ce modèle économique porté, imposé par le Parti communiste. Des messages comme celui-ci publié par exemple dans le journal Le Monde.
La bénédiction viendra et je m'allongerai à partir de maintenant jusqu'à ma mort. Je ne me marierai pas, je n'achèterai pas de maison, je n'aurai pas d'enfant, je n'achèterai pas de sac, je ne porterai pas de montre, je serai oisif, je travaillerai un jour et me divertirai trois jours.
C'est un punk.
C'est un peu le principe. Sur les réseaux sociaux chinois qui sont très surveillés évidemment par les autorités, les messages sont rapidement effacés par le gouvernement, mais ils sont révélateurs justement d'aspirations de cette nouvelle génération qui ne veut pas de ce modèle. Et c'est un discours qui s'accompagne, vous savez, de revendications sur l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration aussi des revalorisations salariales, des problématiques qui ressemblent aux nôtres. Mais c'est vrai que dans un régime autoritaire, c'est plus facile d'imposer ses règles, mais l'oppression a des limites. Donc dans ses rêves de croissance, la Chine devra, dans les années à venir, aussi prendre en compte ces changements d'aspiration.
Eh bien, c'est dit, on a appris énormément de choses.
Comme toujours.
Passage. On est parti de Wuhan et on a fini par la retraite des Chinois.
Absolument.
C'est ils n'ont plus de coronavirus, ils ont d'autres problèmes.
Oui, on va pouvoir briller au dîner avec ça, mais aussi avec autre chose. Dans un instant, à tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Et avant de briller au dîner, on va parler foot puisque ça fait un partout à la fin du temps réglementaire entre l'Espagne et la Suisse. Résultat, les prolongations.
L'info pour briller, pour moi, ça va aller vite. Oui. Vous savez quelle a été la chanson la plus écoutée sur le site de streaming Spotify en Suisse cette semaine? Je vous préviens, c'est hyper humiliant pour nous, c'est celle-là.
C'est bon esprit.
Oui, la coupe à la maison, c'était l'hymne des Bleus, champion du monde. Ils ont vraiment décidé de nous humilier jusqu'au bout. Les Suisses et là, ils sont en train de jouer contre l'Espagne, donc la prolongation, c'est maintenant.
Allez,
vous vous souvenez comment on avait humilié les Italiens après.
Oui, rebouché une bouteille de champagne.
Voilà, donc c'est chacun son tour.
Tu connais pas ça, là?
Allez, marche ou rêve?
Marche ou rêve?
Donc on met en valeur vos projets, vos initiatives, Cyprien.
Et ce soir, Laurent, vous nous faites découvrir le peut-être futur Thomas Pesquet. Ça, c'est du projet ambitieux de devenir Thomas Pesquet.
Ouais, Clément a 28 ans, originaire de Cessin dans le département de l'Isère. Il rêve de faire partie des nouveaux astronautes de l'Agence spatiale européenne. Et c'est vrai qu'il y a du monde qui a envoyé son CV pour cette grande campagne de recrutement. Plus de 22 000 candidatures, dont un peu plus de 7 000 Français. Il est en ligne avec nous. Bonsoir Clément.
Bonsoir Laurent.
Vous avez envoyé fin mai votre profil. Alors pour quelle raison vous êtes-vous lancé? C'est un rêve d'enfant?
Oui, mais c'est un rêve d'enfant. Alors je pense pas être l'unique personne dans ce cas-là. Et pour moi, plus personnellement, je souhaite candidater parce que ça permet de concilier ma curiosité scientifique avec mon goût pour l'aventure. Et je pense donc qu'il n'y a pas vraiment de projet plus exaltant que celui-ci.
C'est un rêve d'enfant, mais c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Faut dire, vous avez mis toutes les chances de votre côté avec votre parcours. Hein.
Oui, alors je sais pas, ce sera au jury d'en juger.
C'est quoi
mais,
le parcours
effectivement, donc je. Alors, donc je suis d'une part ingénieur, également officier de réserve chez les chasseurs alpins, et puis sur mon temps libre, on va dire que je suis un petit peu touche à tout. Donc, j'aime bien aller voler en avion, en parapente, faire la rando.
Vous êtes énervant, bricoler.
Il n'y a rien d'exceptionnel. Nous aussi, on adore ça, le parapente, les trucs l'avion.
Et je sais que vous repassez en ce moment votre brevet de pilote d'avion.
Bah oui.
Vous apprenez le russe. Vous vous lancez dans des cours de plongée. Mais comment va se procéder là? Passer la procédure de sélection?
Alors là, j'attends les réponses pour la première phase, donc il y aura à peu près 10% de personnes qui vont être sélectionnées, et ensuite il restera 5 phases de sélection qui vont s'étaler jusqu'en octobre 2022. Donc il faut être aussi un petit peu champion de marathon pour attendre jusque-là. Mais donc voilà, les prochaines étapes, donc ça sera test psychotechnique, psychologique, entretien de motivation en groupe, visite médicale, etc. Un peu le même genre de choses que pour les pilotes d'avion, pilotes de chasse.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que dans un coin de votre tête, vous avez Mars? Parce que le futur objectif, ce sera d'aller sur Mars. Est-ce que vous y pensez?
Alors oui, j'ai été bercé par Objectif Lune de Tintin. Là, ça sera plutôt Objectif Mars. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais bien faire pendant les 2 années de voyage pour faire l'aller-retour. J'ai commencé par une liste de bouquins et de musique. Ouais. Voilà.
Et vous partagez un point commun avec Thomas Pesquet, à une école d'ingénieurs. C'est déjà un bon début.
C'est ça. On a étudié à Super Héros tous les deux. Après, voilà, on a des parcours aussi différents, mais il faut tout justement pour faire une bonne équipe. Et moi, je rêverais de pouvoir partir avec Thomas Pesquet et qui ait autant de patience avec moi qu'avec l'ensemble des personnes pour m'apprendre plein de trucs.
Et objectif pour l'Agence spatiale européenne, sélectionner 4 à 6 nouveaux astronautes de carrière. Donc, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Vous le suivez, là, Thomas Pesquet, en ce moment?
Oui. Oui, oui, à côté de ma préparation, je suis pas mal ce qu'il fait, donc j'apprécie toutes les expériences qu'il peut mener, comme l'expérience pilote qui consiste à utiliser la réalité virtuelle et le retour sensoriel pour manipuler des objets. Et donc ça aura des applications très pratiques pour la proprioception sur Terre.
Et je rappelle, Clément, que vous avez seulement 28 ans. On a l'impression que vous avez des journées qui durent 6 fois plus longtemps que les nôtres, parce que moi, je sais pas comment vous faites pour faire tout ça en 6 fois plus longtemps.
Je crois qu'il est moins oisif que vous, en fait.
Mais pourtant, j'ai pas le temps, moi. Ouais, je suis pas oisif.
Mais c'est ça, dans cette durée, j'essaie quand même de trouver du temps pour aller boire des coups.
Ah, oui. En plus,
il est sympa. Avec modération, bien sûr, mais d'accord.
Avec modération.
Bien sûr. Eh ben, on va vous suivre.
On
va vous suivre, Clément.
Vous pouvez suivre la candidature de Clément sur les réseaux sociaux. Clément Huber, H-U-B-E-R sur Twitter et SpatioClem sur Instagram.
Et on prendra des nouvelles.
Allez, bon courage.
Bon courage, Clément.
Bravo, Clément.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Je crois que nous avons un gagnant du jeu.
C'est pas possible.
Mais je crois bien.
Allons,
pourtant, la question était dure. Hein.
Attendez, on va reposer la question.
Reposons la question.
Bonsoir. C'est Bruno qui est avec nous. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Bruno. Vous nous appelez d'où, Bruno?
De l'Esconil, en bord de mer, dans le sud Finistère.
Oh, vous n'allez pas aller bien loin.
Alors, c'est bien parce que, comme on offre le voyage, en plus, là, ça nous arrange.
Ça coûte pas cher à la maison.
Eh ben, c'est à côté de chez vous.
Donc, si vous avez réponse, on sera ravis au service cadeau. Alors, quelle était la question de...
C'était quel est le petit personnage qui vous
personnage.
Aide à trouver... Est-ce que c'est bison futé? Est-ce que c'est.
Tortue géniale?
Tortue géniale, ou est-ce que c'est petit tigre espiègleau? C'est mignon.
Voilà. Ah bah, Bruno, il avait la bonne réponse. Hein.
Réponse?
Bison futé. Pour ne pas dire bison bourré.
Pas encore. Vous aimez Bilal? Enki Bilal?
Ma femme est assez fan de Bilal.
Ah oui, la femme piège, c'était superbe.
Ah, génial, cool. Génial. Bon, vous allez vous régaler, c'est magnifique cette expo à Landerneau là. On est ravis de vous
voir. Félicitations.
On est déjà allé faire les visites là-bas.
Ah, vous connaissez.
On va voir des expositions justement.
Ah bah vous pourrez y dormir, Bruno.
Vous allez
y
dormir.
Une nuit pour vous, deux entrées, le catalogue de l'exposition, et puis le trajet,
Vous pouvez y aller presque en vélo, non? Vous êtes à combien de kilomètres?
Je dirais 80, un peu plus de haut, pas loin de 100 presque.
Ah oui, non, voilà, là, le vélo, c'est quand même compliqué.
Eh bien, on vous offre quand même le trajet.
Eh bien, bravo, Bruno.
Super, Bruno, bravo, on est ravis de vous offrir ce cadeau. Passez une bonne soirée.
Ok, merci beaucoup.
Bonne soirée
à tous.
Et bye bye Bruno. Et puis bye bye tout le monde.
À la semaine prochaine.
La semaine prochaine pour la dernière.
Je pense qu'ils seront forts.
Meilleur des larmes.
Une courte pause dans un instant. Les infos de 20h.
Il y a toujours entre les
deux. Toujours un but partout. Début de la prolongation. 92 minutes.
Ils sont incroyables ces Suisses.
C'est ça. Ils
me font douter ces Suisses.
C'est le football.
Je comprends plus rien.
Il faut rendre l'antenne là.
Ouais, faut y aller là.
Allez, salut, bon week-end.
On défait le monde dans RT.